Alors, pour comprendre ce que nous faisons ce matin, je propose de regarder dans la Bible les premiers baptêmes chrétiens que nous trouvons dans le livre des Actes, Actes chapitre 2. Ces premiers baptêmes chrétiens ont lieu lors d'une fête juive, la Pentecôte, 50 jours après le Pâques où Jésus est mort. Et ce jour-là, l'apôtre Pierre a prononcé un discours important. Je vous lis la fin de son discours. Il a cité quelques versets dans les psaumes qui parlent justement de la résurrection. Et il dit ceci en Actes 2, verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et a annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et l'exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ce jour-là, ils n'étaient pas 3 baptisés, ils étaient 3000 baptisés. Et vous allez me dire, tu vois, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus acceptable culturellement d'être baptisé à cette époque qu'à notre époque. C'était beaucoup plus facile de devenir chrétien à cette époque que notre époque. Mais c'est pas le cas, c'est loin de là. Il faut savoir que les a priori et les préjugés que pouvait avoir cette foule juive contre Jésus, contre la foi chrétienne, était bien plus conséquente que ce qu'on peut trouver en France aujourd'hui. Il y avait un tel stigmate, une telle honte associée à la croix, à la crucifixion, que pour les Juifs, de suivre un Messie crucifié était inconcevable, c'était insurmontable. On voit justement au début de ce chapitre, en verset 13, notamment que parmi ces baptisés même, au début du discours de Pierre, beaucoup se moquaient des chrétiens. Ils disaient qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient fous. Ils s'en moquaient. Alors peut-être assistez-vous à ce culte ce matin et vous aurez tendance de trouver ce que vous voyez un peu bizarre, voire s'en moquer. La Bible vous comprend. Il y a beaucoup qui sont passés par là. Mais la promesse est pour vous. La promesse est pour vous aussi, comme Pierre l'a dit à son entourage. Et à la fin de son discours, ce discours de Pentecôte, le verset dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et par la suite, ils ont été prêts à croire en Jésus, à se faire baptiser. Alors qu'est-ce qui les a touchés ce jour-là dans le discours de Pierre et qui les a incités à croire, à changer? Des choses qui peuvent encore nous toucher, je pense. J'aimerais parler des 3 particularités du message chrétien, 3 choses qui ont pu toucher ces hommes, ces juifs, qui, a priori, n'étaient pas intéressés par un Jésus crucifié, un Messie comme ça. Mais 3 choses qui les a touchés ce jour-là, qui peut encore nous toucher ce matin. Tout d'abord, l'universalité de l'offre. Ensuite, nous allons voir la réalité de la résurrection. Et enfin, nous allons voir la visée personnelle. L'universalité de l'offre. Pierre prononce ce discours suite à un phénomène très bizarre, surnaturel. Les apôtres et ceux qui étaient avec eux se mettaient à louer Dieu dans toutes les langues et les dialectes du monde, notamment les langues maternelles des Juifs qui étaient réunis ce jour-là pour célébrer Pentecôte à Jérusalem. Tous ces Juifs venaient de loin et ils entendaient ces langues, leur propre langue maternelle. C'était un phénomène surnaturel produit par le Saint-Esprit. Et ils sont étonnés. Et c'est là où ils disent, ils sont ivres, on comprend pas ce qui se passe, mais ils sont ivres, ils sont, ces chrétiens sont bizarres, ils sont ivres, ils sont fous, et ils s'en moquent. Mais Pierre dit, non, 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 c'est pas ça. Et Pierre va expliquer, ce qui vient de se passer, c'est très important, il dit, c'est toute la nouveauté de la foi chrétienne, c'est que maintenant, elle est ouverte à tous. Dieu veut inclure, et c'est ça le sens de Pentecôte, où il donne le Saint-Esprit sur toutes ces personnes, Dieu veut inclure, il veut donner son esprit à tout le monde. Et donc, Pierre cite un verset dans l'Ancien Testament, Joël, vous l'avez en verset 17, il dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. » Vous voyez? Il dit, maintenant, c'est vraiment pour tout le monde. Et il termine son discours en verset 39 en disant, « La promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin. » C'est-à-dire nous ici, mais ceux qui sont au loin et dans le monde entier. Vous voyez, un des moments fondateurs du christianisme, ce jour-là, de Pentecôte, les premiers baptêmes, un des moments fondateurs du christianisme, c'est une louange exprimée dans une vingtaine de langues différentes. Là, c'est très fort. Le message est très fort. Ça veut dire, quelle que soit ta culture, quelle que soit ta langue maternelle, tu as une place dans la famille de Dieu. Ça, c'est la nouveauté de la foi chrétienne. C'est une des particularités. Et je me dis, c'était déjà une bonne nouvelle pour ces personnes qui, eux, venaient d'autres coins du monde, de tous les coins du monde, qui étaient réunis, comme dit verset 5, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ils sont venus parce que la loi de Moïse obligeait de venir faire la fête de Pentecôte. Mais ces gens-là, déjà, c'est vrai qu'ils pouvaient se comparer aux autres Juifs. Vous savez, les Juifs de pure souche, ceux qui habitaient près de Jérusalem, en Judée, eux, ils pouvaient se croire déjà un peu mieux que les Juifs galiléens qui habitaient le Nord. Les Galiléens, c'était un peu les ch'tis de l'époque, vous savez. Ils sont dans le Nord. Et on pourrait les qualifier comme ils ont fait dans le film, hein, les gens. Oui, ils sont un peu basiques, simples, un peu rustres, parfois vulgaires, abrutis. Là, c'est comme ça que, et même on le sent ici un peu dans les versets, c'est galiléen, mais comment ils font ça? Ils sont pas des galiléens, les galiléens, ça. Donc, les juifs, déjà dans le même pays, il y avait une espèce de comparaison, nous les juifs. Près de Jérusalem, on est mieux que les galiléens. Mais encore eux pouvaient se croire meilleurs que ceux qui venaient, qui habitaient au loin, qui habitaient dans d'autres pays, qui étaient souvent au contact des païens, ça c'est encore moins bien. Et bien, bien sûr, toute la communauté juive pouvait se croire meilleure que les païens qui étaient loin de Dieu. Mais Pentecôte va changer tout ça. Et le message avec toutes ces langues, c'est Dieu, il se donne à tous. C'est ouvert à tous. C'est universel comme offre. Et c'est pour ça que Pierre cite ce passage en Joël, parce qu'un des versets clés, c'est verset 21, il dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pas que pour nous les Juifs, ou que pour les Galiléens, ou que pour les gens qui parlent d'une telle langue. C'est quiconque, c'est toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est très fort dans la foi chrétienne. Il suffit de regarder le monde aujourd'hui pour voir que Jésus n'appartient pas aux Européens, il n'appartient pas aux Asiatiques, il n'appartient pas aux Américains, il n'appartient pas aux Africains. Il n'y a aucune culture qui a le monopole sur Jésus, sur la foi chrétienne. Alors qu'on a tendance de réfléchir comme ça en matière de religion. On dit souvent l'islam, c'est pour les Arabes, l'hindouisme, c'est pour les Indiens. L'athéisme, c'est pour nous les Occidentaux. Mais cette manière de réfléchir, déjà, elle porte pas vraiment du fruit. Hein. Elle inculque souvent des sentiments de supériorité, des tensions racistes. Ça peut aller même jusqu'à des guerres de religion, parce qu'on associe une religion à une culture, et comme ça, on est meilleur que l'autre. Mais l'évangile peut contrer ça. Je dis pas que c'est facile, même à vivre cette communauté avec que nous sommes, avec plein de différences, c'est pas facile. Mais dans l'évangile et dans ce moment de Pentecôte et tout ce que ça veut dire, il y a une force pour produire l'unité, puisque Dieu accueille, il veut être loué dans toutes les langues. Cette offre universelle s'applique à l'âge aussi. Vous avez peut-être vu ça, mais dans le prophète de Joël, il dit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens et vos vieillards. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, jeunes et vieux, fils et filles. Vous et vos enfants, il termine son discours en verset 39. C'est pour, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Si vous êtes vieux, il faut pas dire c'est un truc pour les jeunes. Aujourd'hui, on a vu pas mal de jeunes ici. Et dans notre culture française, on dit oui, les trucs de jeunes, mais quand on est vieux, on change pas de religion, bien sûr. Mais dans notre culture, il faut surtout pas que les jeunes se convertissent. Il faut qu'ils suivent la tradition des pères et des ancêtres. Mais ici, c'est ouvert à tous. C'est pour vos jeunes gens et pour vieillards. Donc si vous êtes vieux, il ne faut pas dire c'est un truc pour les jeunes. Si vous êtes jeune, il ne faut pas dire c'est un truc pour les vieux. Non, c'est pour tous. Et le baptême, le sens du baptême, un des sens du baptême, c'est pour rappeler cette unité. Quand ces 3000 personnes ont été baptisées tous ensemble pour former un même corps, une même famille, c'est pour dire nous sommes tous baptisés dans le même esprit, nous avons tous la même foi, nous sommes tous immergés dans la même, le même Dieu, ce qui crée une unité forte. Donc, un premier sens qui a pu les toucher, c'est cette offre universelle. C'est pour tous. Une autre chose qui a pu les toucher dans le message chrétien, le message de Pierre, c'est la réalité de la résurrection. Nous avons déjà pas mal parlé parce que c'est vraiment un sens fort du baptême, c'est l'image de la résurrection. Et pour, ça va être la partie la plus importante du discours de Pierre, c'est insister sur la réalité de la résurrection. Et Pierre, tout au long de son discours, il fait appel à deux témoins, notamment les écritures juives qu'il connaissait bien. Il va citer notamment les psaumes de David pour montrer que déjà David, les psaumes, de manière prophétique, anticiper une résurrection, la résurrection du Messie. Et puis, il va appuyer sur d'autres témoins, c'est les 12 apôtres. Comme il dit en verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Nous avons les 12 plus proches amis de Jésus, nous avons vécu tous ces temps avec lui, et nous l'avons vu mourir, et nous l'avons vu ressusciter. Donc, les écritures juives en témoignent, David, et nous, les apôtres, nous pouvons en témoigner. Alors, si vous luttez sur les questions de la résurrection, si vous estimez qu'il n'y a pas assez de preuves, sachez que vous pouvez faire l'enquête vous-même. Ceux qui se lancent dans la quête et à la recherche des preuves de la résurrection sont largement satisfaits dans les preuves qui existent. N'hésitez pas à faire l'enquête, comme dans les cellules, les groupes de maison, nous étudions notamment un des récits d'un témoin proche, c'est Luc, le même qui a écrit Actes. Et vous pouvez découvrir pour vous-même les preuves qui appuient la résurrection de Jésus-Christ. Mais je dirais que c'est vraiment la spécificité du message chrétien, c'est ça nous parle d'une résurrection. La bonne nouvelle, c'est pas juste que Jésus est vivant aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il est passé par la mort et qu'il est ressuscité. Un des versets que nous avons lu a dit que Jésus a brisé les liens de la mort. Il les a brisés pour lui-même et il les a brisés pour nous qui le suivons. Je vous donne un exemple. Par exemple, une route qui mène vers une jolie coin dans la montagne, hein. Peut-être dans les Pyrénées, mais une route qui mène vers un lieu magnifique dans les montagnes. Imaginons qu'il y a un éboulement massif qui ferme la route. Et plus personne passe. Les gens qui habitent en bas dans le village, ils ne peuvent plus passer. Et on n'a pas les finances, on n'a pas les moyens pour réparer la route. Alors ça traîne. Et ça traîne des années. Et personne ne peut monter là-haut. De la même manière, c'est notre cas pour l'humanité. Il y a eu un éboulement catastrophique qui a fermé la route à la vie. C'est le péché, ça a fermé la route à la vie, ça a fermé la route à la réalisation de nos rêves, ça a fermé la route à l'éternité, ça nous a fermé la route à Dieu et de vivre dans sa présence. Et cette route était fermée, barrée, et on pouvait pas, on n'avait pas les moyens de la réparer. Mais c'est ça la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, il a lui-même frayé un chemin, il a réparé cette route en passant lui-même et puis en offrant la possibilité à nous tous de le suivre. C'est ça que le baptême illustre et célèbre, c'est cette mort et puis cette résurrection. Et encore, il n'y a que la foi chrétienne qui offre une réelle espérance de résurrection. C'est vrai que des fois, vous avez entendu dans plusieurs témoignages, la mort revient. Et c'est quelque chose qui à quel on réfléchit tous. Quelles sont les solutions? Comment gérer l'épreuve, la réalité de la mort? Et aujourd'hui, dans notre monde peut-être moins croyant, on dit, voilà, il faut s'y résigner, ça fait partie de la vie. On dit, la mort fait partie de la vie, il n'y a aucune raison de le craindre. Je vous lis une citation d'un livre qui m'a touché. La formule peut-être la plus connue dans la culture populaire est tirée du film Le Roi Lion. Vous l'avez revu récemment, je crois, Le Roi Lion. Dans lequel un lionceau apprend que même si les lions mangent les antilopes, ils finissent par mourir et fertiliser l'herbe, et les antilopes mangent l'herbe. Jusqu'au jour, enfin, où l'on trouve sa place dans le cercle de la vie. Donc, les lions mangent les antilopes meurent, fertilisent l'herbe, les lions meurent, et donc quelque part les antilopes mangent les lions, et c'est un beau cycle de la vie. Mais en réalité, une grande majorité des personnes redoutent vraiment la mort même, même si elles connaissent toutes ces réalités biologiques. Le philosophe Peter Crieff raconte l'histoire d'un garçon de 7 ans dont le cousin mourut à l'âge de 3 ans. « Où est mon cousin maintenant ? » demanda-t-il à sa mère. Elle ne croyait ni en Dieu, ni en une vie après la mort, et ne pouvait donc en toute logique lui parler du paradis. Elle choisit donc la voie matérialiste moderne. « Ton cousin est retourné dans la terre, d'où nous venons tous. La mort fait naturellement partie du cycle de la vie. Alors quand tu verras pousser de nouvelles fleurs au printemps prochain, tu sauras que c'est la vie de ton cousin qui les fertilise. » Comment ce petit garçon a-t-il réagi ? Il hurla, « Mais je ne veux pas qu'il devienne de l'engrais. » Et il s'enfuit. Et c'est ça l'offre encore ce matin. Est-ce que votre destinée, c'est de l'engrais ? Est-ce que votre destinée, c'est des retrouvailles ? Et c'est ce bonheur, cette paix, cette joie, cette vie dont nous avons chanté. Ça, il n'y a rien comme la réalité de la résurrection pour mettre en avant la foi chrétienne. Et enfin, je termine avec la visée personnelle du message de Pierre. Ils étaient touchés, je pense, par l'ouverture à tous. Nous, venant de loin, nous pouvons avoir accès. Ils étaient touchés par la réalité de la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Mais enfin, ce qui va les toucher, c'est cette visée personnelle de la manière que Pierre termine son discours en verset 36. Après avoir donné le sens de ces multiples langues, après avoir donné le sens de la résurrection, il dit en 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Que vous avez crucifié. Quel courage, quel cran de dire à cette foule, 3000, devant un petit poignet de chrétiens, cette église débutante, quel courage de dire, vous l'avez crucifié. Alors c'est vrai que littéralement, c'est pas eux. Il reconnaît en verset 23, vous l'avez fait mourir par la main des impies, par la main des Romains. Mais c'est la responsabilité est aussi sur vous. Et là, il dit, vous vous êtes trompé. Et vous avez condamné un innocent à mort, alors que c'est vous les coupables. Et ça, visiblement, ça les a touchés. On peut imaginer faire partie d'un jury qui a examiné les preuves, qui a condamné une personne à mort. Et puis qui apprend, avec de meilleures preuves, qu'ils se sont trompés. Si vous faites partie d'un tel jury, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous pensez ? Vous avez condamné un homme à mort. Et après, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Et c'est peut-être la réaction de ces personnes. Ouh là là, homme frère, que faire en nous, si c'est vrai, tout ça ? Déjà, ce changement d'attitude, c'est ça la repentance, c'est changer d'attitude par rapport à Christ. Avant, il l'avait condamné, il l'avait livré, et maintenant, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Et c'est pour ça que Pierre dit, bah, vous êtes en bonne voie, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ce qui est tellement beau, c'est qu'il les condamne, vous avez crucifié Jésus. Mais l'instant après, il dit, la promesse est pour vous. La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Vous voyez, ceux-mêmes qui ont crucifié Jésus, c'est cela que Dieu aime sauver. C'est cela que Dieu aime. C'est cela qu'il veut sauver. C'est en cela qu'il veut habiter. Voilà la beauté de la foi chrétienne. Elle devient très personnelle. Elle nous dit, elle nous condamne. Elle nous responsabilise de la mort de Jésus-Christ. Même si ce n'est pas nous qui étions là, même si ce n'est pas nous qui avons planté les clous, nous avons tous notre part, l'humanité. Elle nous responsabilise de la mort de Jésus. Elle nous condamne tous. Mais l'instant d'après, elle offre grâce et pardon et amour. C'est merveilleux. Elle nous condamne et en même temps, elle nous gracie. Et ce jour-là, chacun de ces 3000 baptisés ont pu dire, oui, en fait, c'est mon péché qui l'a cloué. Alors que c'était des hommes pieux. Des hommes pieux, des hommes religieux, des hommes qui sont prêts à faire des grandes distances de pèlerinage pour célébrer Dieu. C'est ceux-là qui ont dit, oui, nous sommes pécheurs. Oui, c'est mon péché qui l'a cloué, mon orgueil, mon indifférence, mon ignorance, mes préjugés contre Jésus. Mais je saisis cette offre de grâce personnellement, c'est pour moi ce qu'il a fait. Et ça aussi, ça donne un sens à ce baptême. Je suis baptisé ce matin, vous l'avez vu, il y a une démarche personnelle. On peut connaître le message, on peut connaître les faits, mais comme vous avez vu en chacun, il y a un moment où tu dis, oui, j'ai entendu l'appel personnalisé de Dieu, cette visée personnelle. Je me sens moi-même pécheur, en besoin d'un sauveur, et je prends, et devant tous, je m'engage personnellement. Donc le baptême trouve un sens dans tous ces aspects de la foi chrétienne. Elle nous rappelle que nous sommes tous unis, quel que soit notre arrière-plan, notre culture. Elle nous rappelle la réalité de la résurrection qu'offre Jésus. Et elle rappelle cet engagement personnel que nous devons tous avoir avec Dieu. Et j'espère que ce matin, dans ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, vous puissiez aussi vous poser cette question. Que ferons-nous? Qu'est-ce que je fais en réponse à tout ça? On ne peut pas laisser ce genre de choses sans réponse. Mais sachez que l'offre est universelle. Sachez que l'offre est belle, elle parle d'une résurrection. Et sachez que l'offre est personnelle, elle vise chacun de nous, chacun de vous. Nous allons terminer dans la prière. En réfléchissant à ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Peut-être c'était une des paroles d'un chant, peut-être c'était un des témoignages de nos baptisés, peut-être c'est des versets de la Bible. Mais que ferons-nous face à tout ça? Prions. Seigneur, nous aussi, nous voulons avoir le cœur vivement touché. Comment ne pas avoir le cœur le touché de ce que nous avons vécu ensemble ce matin? Merci de ces trois jeunes baptisés, le parcours que tu leur as donné, la manière qu'ils ont eux-mêmes compris ces choses, venant de différents horizons, différentes cultures, ils ont compris le message de la résurrection, cette nouvelle vie que tu es prêt à donner. Ils l'ont accepté personnellement. Et nous tous, peut-être nous avons déjà fait cette démarche, ou il nous reste à faire cette démarche, et nous te prions de nous aider. C'est toi-même qui appelles. Pierre dit que voilà, la promesse est pour vous, et en aussi grand nombre que le Seigneur appelle. Et nous te prions encore que tu appelles des cœurs à toi, que tu leur donnes cette joie, cette nouvelle vie, cette espérance. Merci pour tout ce que tu fais dans notre assemblée. Nous voulons vivre cette unité, cette joie. Conduis le reste de cette journée, encore des activités, des apéros, des formations. Et ensemble, nous voulons vivre cette nouvelle vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.